On accueille Mathieu Fontana, bonjour.
Bonjour.
Et Frédéric Bayle.
Bonjour.
Alors Mathieu Fontana, donc vous êtes entrepreneur, producteur, musicien, violoncelliste plus précisément, et vous êtes candidat dans la deuxième circonscription du Pas-de-Calais, et c'est votre première candidature.
Tout à fait.
Monsieur Frédéric Bayle, vous êtes le suppléant de Monsieur Fontana, et vous êtes illustrateur de BD, et oui. C'est la première fois également que vous vous présentez en tant que suppléant.
Oui.
Vous faites partie donc du parti Solidarité et Progrès. Où vous situez-vous exactement dans le paysage politique actuel ?
Alors, c'est une question piège. Déjà, moi, j'ai rejoint Solidarité et Progrès parce que je trouvais que c'était un jeune parti dont les idées étaient plutôt de gauche. Et ensuite, c'était surtout une politique qui était basée sur l'humain, sur une vision humaniste de la société. Pour moi, c'est vraiment une chose essentielle parce que aujourd'hui, le politique, pour moi, est complètement déconnecté des réalités, déconnecté de la culture populaire. Et je dirais même, moi, en tant que musicien et violoncelliste classique, déconnecté de la culture qu'on dit savante. J'avais l'impression qu'il y avait des politiques rustines et pas des visions à long terme. Et donc, j'ai rencontré Jacques Cheminade, et c'était un concert, en fait, il est venu m'écouter en concert, et puis de fil en aiguille, on a parlé politique, on a parlé culture, et j'ai trouvé, contrairement à ce qu'on disait dans les médias, que c'était quelqu'un d'extrêmement sympathique, extrêmement intelligent, ouvert, pas du tout sectaire, hein, bien au contraire, et j'ai vraiment décidé de m'engager à ses côtés pour soutenir sa politique.
Alors donc votre cheval de bataille est principalement d'en finir avec la suprématie des instances financières. Pouvez-vous nous dire quelles sont les différentes alternatives que Solidarité et Progrès proposent ?
Peut-être je vais laisser la parole à Frédéric.
Moi ce que je dirais là-dessus, c'est que on veut lutter contre le système financier, mais dans un sens, le système financier est en train déjà de lutter contre lui-même. Donc il y a des choses qu'on ne va pas faire, c'est-à-dire on n'est pas simplement David contre Goliath à vouloir tout petit aller mettre un coup de boule au système. Dans un sens, il est déjà en train de s'effondrer. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on va réguler la chute et faire en sorte de s'en sortir malgré tous les millions de milliards de capitaux qui vont s'effondrer dans les temps prochains. Donc c'est pour ça que sur du court terme, et c'est ce qu'on dit dans les professions de foi, ce qu'on veut faire, c'est déjà utiliser le pouvoir politique qu'on a avec l'Assemblée nationale, pour avoir une commission d'enquête sur la crise financière et savoir exactement qui a fauté là-dedans. Si on prend la plupart des grandes banques françaises aujourd'hui, non seulement elles ont des activités hors bilan, tout comme en Espagne, la banque a 180 milliards d'euros hors bilan. Et demain, on va avoir donc, on a tout un chantage qui est pratiqué au niveau des États, par les banques, qui disent, voilà, renflouez-nous, sinon, quand on perd en bourse, on perd tout. On perd aussi, y compris, du coup, on met en question les dépôts des gens, et donc, du coup, c'est une forme de chantage perpétuel. Donc, nous, on veut sortir de ça, c'est pour ça qu'on veut aussi vraiment, je pense peut-être qu'on va en reparler, mais de couper les banques en deux, net, précis, et qu'il n'y ait pas même de demi-mesure comme le propose Hollande aujourd'hui.
Vous êtes également pour la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la crise. Alors, en quoi elle consiste exactement ?
C'est un peu le rôle du député en fait dans le cadre de la députation du Parlement plus généralement. En fait, on veut mettre en lumière un peu les responsables de cette dette en fait, et on va ainsi pouvoir connaître les dettes légitimes les dettes illégitimes. Il est absolument impensable que le citoyen français paye par les impôts ou même dans les banques, paye des dettes qui ont été faites sur la spéculation financière, sur l'usure. Et,
ouais. Parce que ce qu'on oublie de dire par rapport à la crise actuelle, c'est que c'est un crash qui est programmé. C'est-à-dire que les gens qui sont à la tête aujourd'hui des grandes banques françaises, prenez Frédéric Oudéa, tiens, au hasard, Société Générale, c'est quelqu'un qui était un ancien inspecteur des finances. C'est-à-dire que c'est des gens qui sciemment ont déconstruit un système qui était régulé, donc ils l'ont dérégulé sciemment pour pantoufler, comme on dit, à la tête des grandes institutions financières, et aujourd'hui pratiquer un chantage. Donc si jamais il n'y a pas un pouvoir politique qui s'occupe de mettre en lumière ça et de montrer les responsables, il n'y a rien qui pourra être fait après.
On insiste vraiment sur le fait que le politique doit redevenir maître, en fait, justement par le biais de cette commission parlementaire, de ce qui se fait au niveau financier.
Ben justement, on revient à ce propos sur les banques, puisque dans votre projet également politique, vous parlez de séparer les banques d'affaires, les banques de dépôt et les sociétés d'assurance. Comment comptez-vous mettre ça en place ?
Bah, concrètement, c'est assez simple. Je crois que le politique est capable de faire la distinction entre une banque qui va où tout le chiffre d'affaires sera fait dans la spéculation et notre banque dont les qui va vers la production et qui est pour les ménages. Donc en fait, des banques qui ont spéculé dans ce qu'on appelle nous quasiment, enfin c'est un casino en fait. Ce qu'on voit actuellement, nous on est vraiment de l'avis d'appeler ça comme ça. C'est un casino de la spéculation. Eh bien, physiquement, on va leur dire vous prenez un autre nom. On vous sépare complètement de ce circuit qui est dédié à la production et au ménage. Et vous. Avec cette nouvelle banque, ben vous continuez, parce qu'on n'est pas contre la finance, mais si vous avez des dettes, vous les réglez. Et maintenant, tout ce qui est sur qui a trait à l'économie réelle, l'argent qui peut être réinjecté dans l'économie réelle, les ménages, les services publics, les PME aussi, et bien ça va fortifier l'économie du pays. Voilà, c'est pour moi, c'est le bon sens, en fait. C'est une économie qui fonctionne bien, qui est plutôt saine. Et à partir de là, ben, on va pouvoir... Il y aura d'autres choses à faire, quoi. Mais c'est la première chose, la chose la plus importante à faire.
Autre point également abordé dans votre programme, c'est d'émettre massivement du crédit public pour la production. En quoi ça consiste ?
Bah, c'est dans la continuité de ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est-à-dire que finalement, nous, on est assez rustique hein, dans nos solutions. C'est faire ce qu'on a vu dans l'après-guerre, où non seulement dans l'après-guerre, on n'avait pas la banque universelle, on avait des banques de dépôt et puis des banques d'affaires et tout ça, qui faisait partie de la planification, c'est-à-dire que les crédits agricoles, c'était pas fait pour, je sais pas, avoir des succursales dans les paradis fiscaux, c'était la banque des agriculteurs à la base. Et surtout, il y avait la Banque de France qui faisait des avances au trésor public, qui permettait, à des très, très faibles taux d'intérêt, qui permettait du coup à investir dans ce qui allait être nécessaire sur le futur. Donc c'est comme ça qu'on a financé à peu près tout ce qui nous paraît évident aujourd'hui, hein. C'est des systèmes d'eau potable, la reconstruction en général, y compris même le superflu entre guillemets, c'est-à-dire ce qui apparaissait comme tel à l'époque, c'est-à-dire le spatial qu'on a beaucoup décrié pendant la campagne, le nucléaire, tout ce qui fait qu'on a de l'énergie et qu'on a une augmentation du niveau de vie.
Vous défendez aussi un autre point, un autre projet plutôt, celui au niveau local, qui est celui de faire d'Arras un pôle de formation et d'enseignement dans toutes les professions portées sur les nouvelles technologies. On en parlait justement juste avant. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce projet ?
Ouais, je suis très sensible à la désindustrialisation qu'il y a dans Arras et sa région. Et je suis vraiment persuadé que c'est le politique qui peut essayer de contrôler un peu tout ça. Même si ce sont des entreprises privées, je tiens à dire que le politique a tout à faire pour essayer de contrôler ce qui est en train de se passer dans cette politique de désindustrialisation. Alors bien sûr, le politique avec son réseau peut attirer des entreprises. Ça existe, heureusement encore un peu. Mais il faut aussi lutter contre ces emplois de service qu'on voit partout. Alors, par exemple, à Dainville, 80% des emplois sont dédiés aux services. Voilà, c'est complètement fou. On est quand même à Dainville, proche d'Arras, c'est la campagne. On peut se dire, tiens, il va y avoir des agriculteurs. Mais non, 80% de l'emploi là-bas, c'est du service. Bon, moi, je pars du principe que toutes ces entreprises qui vont, ces usines et ces entreprises qui vont fermer, qui ont déjà commencé à fermer, qui vont fermer, on doit pouvoir reconvertir intelligemment tout ce savoir-faire, en fait. Et c'est pas grand-chose, parce que les ouvriers que j'ai rencontrés, les salariés que j'ai rencontrés, ont un savoir-faire formidable. Et parfois, il suffit d'un mois, trois semaines, deux mois de stage pour reconvertir, pour former un peu différemment. Et du coup, le salarié part dans un autre secteur. Et par contre, il faut que tout ça, ce soit chapeauté par le politique. Et voilà l'impulsion que moi, j'aimerais avoir à Arras, qui en plus, je trouve, Arras est un pôle culturel et déjà un pôle de formation important, parce qu'il y a des classes prépa, au lycée Robespierre, au lycée Gambetta, mais il faut vraiment renforcer ça. Et il faut aussi attirer un peu plus, je crois, les entreprises qui touchent de près ou de loin aux nouvelles technologies.
Alors, lors de cette campagne, vous avez certainement une stratégie d'aborder les gens, de tracter, etc. Comment ça se passe ?
Ah ben, le plus naturellement finalement du monde. Hein. Voilà, on va dans la rue, on parle avec les gens, ça prend du temps, ça prend un certain investissement aussi. Donc, mais voilà, on fait du porte-à-porte, on essaye de un peu avec les moyens du bord, de se faire connaître, quoi, tout simplement.
Ouais, moi, en fait, on est en tout et pour tout, on a dû faire jour après jour, on a dû faire. Enfin, moi, j'ai dû faire quasiment 15 jours sur le terrain. Dans la rue, dans tous les quartiers d'Arras. Alors bon, faute de moyens, j'ai pas pu non plus aller à Vimy. Bon, j'ai pas pu aller non plus très très loin, dans toute la circonscription. Mais moi, je suis vraiment, moi, j'adore la politique, mais j'adore cette politique dans sa définition d'être au contact de l'autre, comprendre d'abord, écouter l'autre, le comprendre, et ensuite, une fois qu'on a écouté et compris, qu'on n'a pas jugé. L'autre, parce que l'autre ne fait pas partie de sa catégorie socio-professionnelle, chose qu'on voit quand même malheureusement assez souvent avec les politiques actuelles. Et ben, une fois qu'on a écouté, là on peut analyser et ensuite on peut faire une synthèse et ensuite on peut proposer des projets qui sont pour le bien-être en fait de l'humanité.